إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن شر أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأصلي وأسلم على صفوة الخلق المبعوث رحمة للعالمين سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه وسن سنته وارتضى بهديه إلى يوم الدين. أشمن اللهم معهم بعفوك وغفرانك يا أرحم الراحمين. Donc aujourd'hui, nous allons de nouveau reparler des écoles juridiques et comme ça, ça va permettre de mettre tout le monde à niveau. Donc, si une école juridique en arabe se dit madhab, alors c'est la traduction du mot madhab en arabe, enfin en français, ça ne donne pas le mot école juridique, pas du tout. Mais madhab, ça veut dire tendance. Madhab, ça vient du mot zahaba, c'est-à-dire aller vers. Donc c'est l'avis juridique du savant qui permet de qui a fondé une école, en fait. C'est pour ça qu'on a traduit facilement en français par école juridique, mais c'est plutôt les tendances d'une certaine personne qui ont fini par former une école juridique. Alors, il y a une chose que moi je fais toujours pour essayer de comprendre les choses, c'est de dire d'avoir une vue un peu aérienne des phénomènes pour pouvoir un peu voir s'il n'y a pas quelque chose qui est un peu qui permet de voir tout de suite c'est la raison et voir des choses qui apparaissent tout de suite. Alors, si on prend les écoles juridiques dans l'islam, on voit que tout de suite, historiquement, elles se basent entre pendant le deuxième siècle de l'Hégire, c'est-à-dire entre 100 de l'Hégire, hein, je parle du calendrier hégirien, entre l'année 100 et l'année 200. Il va y avoir complètement, toutes les écoles juridiques vont se retrouver dans cette période-là. Bien sûr, avant, il y en a eu. Mais elles ont ou été intégrées et exprimées à partir de ce moment-là, ou elles ont complètement disparu. Mais elles vont se retrouver, en un siècle, on va voir toutes les écoles juridiques qu'on connaît actuellement, elles se retrouvent pendant cette période-là. Et ça, c'est du point de vue, si vous voulez, quand on regarde la date des fondations des écoles, ça apparaît, c'est Melk, ils sont tous contemporains. Tous les savants qui ont fondé des écoles juridiques, ils sont tous contemporains les uns des autres. Donc, à un moment, on se dit, il y a bien une raison pour que toutes les écoles juridiques ils soient apparues dans ce moment-là et qu'on n'en a pas eu d'autres en dehors de cette période-là. Ça, c'est la vision extérieure. Alors, quand on regarde cette période-là, c'est-à-dire le deuxième siècle de l'Hégire, on s'aperçoit que c'est la période la plus bouleversée de l'islam, où il s'est étendu dans tous les sens. Il a conquis à peu près le quart du monde qui était connu de l'époque. Et en même temps, un bouleversement politique, il y a des dynasties qui s'installent, il y a une scission à l'intérieur même du monde islamique, il y a une scission entre plusieurs pays, il y a plusieurs pays qui ont tendance à avoir à se séparer les uns des autres. On n'a plus de nouveau une grande Ummah, c'est-à-dire une seule nation, mais on a plutôt, on va avoir tendance à avoir du séparatisme. Pourquoi? Mais c'est tout à fait logique. La logique veut que plus on s'étend, c'est ce qui est arrivé à Rome, plus les contrées les plus éloignées veulent être indépendantes parce qu'elles sont trop coupées du siège du pouvoir. Donc, et alors la raison pour laquelle ça apparaît à peu près 100 ou 150 ans après le début de l'Hégire, c'est-à-dire à peu près 150 ans après la mort du prophète, pour qu'on a tellement d'écoles juridiques, mais c'est pas du tout non plus spécifique à l'islam, c'est toutes les religions, ils ont vécu ça. C'est-à-dire que 150 ans, c'est à peu près 3 générations après la mort du fondateur. Et 3 générations après la mort du fondateur, ben, on n'a plus ni les premiers témoins, ni ceux qui ont connu les premiers témoins, et les troisièmes, ils se réfèrent à personne, en fait. Et alors, à ce moment-là, on va avoir des gens qui ne vont plus être d'accord. Parce que si nous assistons tous à un événement, et que après vous venez me raconter l'événement d'une manière que moi, je ne l'ai pas vécu, je vais vous dire, vous avez tort. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Et donc, votre avis est bon, le mien, il est bon. On peut pas distinguer, on peut pas séparer, on peut pas dire celui-là a raison, celui-là il a tort, ils ont tous les deux raison parce qu'ils ont assisté au même événement. La deuxième génération, si vous racontez à quelqu'un et que moi je raconte à quelqu'un, cette personne-là va toujours tendance à croire celui qui lui a raconté directement et pas à croire l'autre, celui qui l'a pas entendu. Mais la troisième génération, ils n'ont plus le témoin direct de l'événement, donc là, il faut bien qu'ils justifient la raison pourquoi ils vont croire un tel et pas celui-là. Donc il y a un fondement logique de la raison qui fait que au bout de 2-3 générations, ben la justification tombe d'elle-même. Ça a été le cas pour le christianisme. Si on prend le christianisme, le fondateur du christianisme, c'est pas les 12 apôtres. C'est Pierre de Tarse. Pierre de Tarse est né 150 ans après la mort du Christ. Celui qui a fondé les glossaires de Rome, qui existe maintenant, et le dogme catholique, et il est né 150 ans après la mort du Christ. Et si on prend le judaïsme, c'est pareil. Les fondateurs du judaïsme, c'est pas ceux qui ont vécu avec Moïse, ni ceux qui ont été tout de suite avec Moïse, mais c'est bien 150-200 ans après où l'installation. Donc on a les fondateurs du judaïsme, c'est David, c'est Salomon et tout, qui sont à peu près 150 ans après la fondation du judaïsme. Mais donc c'est pas du tout spécifique à l'islam. On aura toujours tendance dans toutes les religions à avoir ce fondement-là qui se fait. Alors la raison pourquoi les premières écoles ils ont disparu, et même pendant cette période-là, c'est-à-dire du deuxième siècle, on a beaucoup d'écoles qui vont apparaître, mais qui vont disparaître totalement, pour une simple raison toute simple, c'est que les musulmans, enfin les arabes, ne sont pas des gens d'écriture. Ils n'écrivaient quasiment pas. Tout était appris par cœur. Et même, c'était la qualité essentielle pour qu'on te croie. Il fallait que tu connaisses tout par cœur. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui va lire un livre pour réciter un hadith du prophète, on dit celui-là on ne le croit pas. Il faut qu'il le connaisse par cœur. Donc c'était une capacité. Ça c'est la première des choses. Donc on n'a pas d'écrits, on a très peu d'écrits qui datent de certaines écoles. Et le deuxième événement, c'est que le fondateur peut bien fonder une école, mais si ses élèves ne répondent pas à l'école, l'école elle disparaît d'elle-même. C'est ce qui est arrivé à Daoud Zahir par exemple, qui est considéré par les musulmans comme le plus grand de tous les savants de tous les temps. Il n'y a pas plus grand que lui, il n'y a pas plus savant que lui. On devrait dire, ça devrait être le fondateur de tout. On dit, toutes les écoles juridiques viennent de Daoud Zahir, de Sofiane al-Thawri. Mais on n'a pas de trace de l'école de Sofiane al-Thawri. Pourquoi ? Parce que ses élèves n'ont pas noté, n'ont pas répondu sans savoir. Et donc, ça a été intégré par les autres écoles, mais lui, son école proprement dite, a totalement disparu. Donc ça, c'est un survol un peu géopolitique et historique de la fondation des écoles juridiques. Alors, Le deuxième élément, si on prend les écoles juridiques, alors on va voir à peu près trois groupes qui existent toujours maintenant, en plus ou moins importance. On va voir ce qu'on appelle la sunna, le sunna wal jama'a, les gens de la sunna et du rassemblement. Le sunna wal jama'a, c'est l'école malikite, shafi'ite. Donc il y a 4 ou 5 écoles qui sont principales. Le deuxième grand groupe, on va voir, c'est les chiites. Donc c'est une école bien spécifique à côté. Et après, on va avoir une autre école qui ne sont pas des écoles proprement juridiques, mais qui sont intervenues beaucoup dans les idées des écoles juridiques, ce qu'on appelle el-kalem. On peut traduire ça par les philosophes, ou les philosophes ou les gens de la discussion, c'est-à-dire les gens qui ont apporté des idées, mais ils n'ont pas forcément apporté tout, ils n'ont pas une réponse à tout. Ils se sont intéressés à certaines choses, mais pas à toute la jurisprudence islamique. Alors, par exemple, on prend le Khawarij, qui est une école qui était à un moment une grande école juridique, puisqu'elle était l'école du pouvoir en place à l'époque. Eux, on ne trouve pas des textes sur la manière de faire les ablutions, sur la manière. Ils ont des textes généraux sur des choses philosophiques, mais pas au niveau de la pratique. On n'a pas de texte qui nous parle de ça. Donc, alors qu'une école, elle a des idées quasiment sur tout, et elle évoque tous les événements, et ça permet surtout de progresser dans le temps. Donc ça, on a quatre les trois grands groupes à peu près. Alors, si vous lisez les livres qui existent actuellement, ou les livres qui ont été écrits dans les époques assez reculées, pour l'explication pourquoi il y a eu des écoles juridiques, on va vous parler de la différence de l'acceptation des savants de certains hadiths ou de l'interprétation. On vous parlera pas forcément vous ne trouverez pas de toute façon des justifications historiques de la fondation des écoles. Alors que il est évident que quand on étudie les écoles juridiques, la raison de la fondation de l'école, elle repose sur un événement bien précis, et c'est cet événement qui va conditionner toute l'école. Donc je vais vous parler de ça. Donc on va prendre le premier groupe, qu'est-ce qu'on appelle Ahl-Sunna. Alors, les sunnites, ce qu'on appelle les sunnites. Les sunnites représentent à peu près dans le monde actuel 90% des pratiquants de l'islam. Toute école indifférenciée, c'est 90%. On les retrouve partout, quasiment dans tous les pays, où ils sont dans la plupart du temps majoritaires, sauf dans quelques pays où le schisme est majoritaire, où une autre école est majoritaire, exemple... L'Iran, c'est les chiites qui sont majoritaires. Le Liban aussi, c'est les chiites qui sont majoritaires. L'Irak, c'est les chiites qui sont majoritaires. Oman, c'est les ibadites qui sont majoritaires. Les sunnites sont des gens représentent 5 à 10% de la population. Donc, mais on les retrouve quasiment dans tous les pays du monde. Donc, c'est des écoles qui se sont répandues assez rapidement. Alors, le premier... Pour l'instant, je vais parler que des écoles juridiques qui existent maintenant. Parce que je ne vais pas vous parler de toutes les écoles, il y en a trop, c'est pas possible. Je vais vous parler des écoles qui existent maintenant pour que vous compreniez un peu plus. Alors, la première des grandes écoles sunnites, c'est c'est Abu Hanifa. Donc, le premier grand juriste, c'est Abu Hanifa al-Norman, qui est le fondateur de l'école Hanafite, qui est le premier grand savant qui a fondé une école juridique sunnite. Alors, Abu Hanifa, c'est à peu près en termes de date de l'Hijra. Il est né à peu près en 80, après le début de l'Hijra, et il est mort en 150 après l'Hijra. Donc il est bien le début, c'est pour ça que j'ai dit, les écoles qui sont installées à peu près au 2e siècle, lui il est né 20 ans avant le début du siècle. Quoi. Et il va vivre 50 ans dans le 2e siècle où il va pouvoir installer son école. Alors, Abu Hanifa, la distinction d'Abu Hanifa, c'est déjà le lieu dans lequel il a vécu et il a résidé, c'est-à-dire le Koufa. Il est né en Irak et il va rester quasiment toute sa vie en Irak. Il va s'installer en Irak, il va enseigner en Irak et il va répandre son école à partir de l'Irak. Son école va se répandre à partir de l'Irak. Mais il aura bien sûr des élèves qui viendront de toutes parts, mais lui il est installé en Irak. Alors, l'Irak de cette époque-là, c'est le siège du pouvoir. Les Omeyyades étaient installés à Bagdad, donc c'est le siège du pouvoir politique. Il va devenir le siège quasiment du pouvoir juridique aussi, parce que si on a le roi, on a forcément les gens de loi qui vivent avec lui. Et donc on va voir aussi le déplacement du pouvoir juridique. Et ça, c'est déjà très important. Il faut bien saisir ça. On est passé sous les califes, on est passé du pouvoir de Médine au pouvoir de Bagdad. Donc là, il y a déjà un petit peu un refus de la part de certains Arabes en disant qu'il faut rester à Médine parce que c'est là où le prophète a créé la communauté, où cela, les califes, ils ont vécu, les trois califes du moins, puisque Ali a décidé de partir à Bagdad. Donc c'est très important. Alors, Abu Hanifa, c'est c'est l'être exceptionnel par excellence. C'est quelqu'un qui ne se destinait pas du tout à l'étude de la jurisprudence. C'est un commerçant hors pair, parce qu'il en fait, il n'a jamais gagné sa vie en enseignant l'islam. Il était un commerçant, il était très 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 riche par le commerce. Et donc il s'était spécialisé dans le commerce du tissu, comme son père. Et donc il avait énormément de magasins de tissus, ce qui lui permettait d'avoir totalement une indépendance financière par rapport au pouvoir en place, ce qui faisait de lui un être totalement indépendant. Alors la spécificité de l'endroit où il était, donc le Kouf, c'est que les musulmans étaient plus ou moins, alors là j'avance un théorie, mais bon, certains me contredisent dans ce phénomène-là, mais on a des sources historiques qui prouvent ça, c'est que les musulmans étaient encore minoritaires. Ils représentaient pas la majorité du pays, ils étaient encore minoritaires. En 80 après le début de l'Égypte, ça faisait que 70 ans que moins de 70 ans, à peu près 60 ans que l'Irak était devenu musulman, donc il y avait encore pas mal de gens qui n'étaient pas de la religion musulmane. Mais aussi parce qu'elle attirait énormément de commerçants. C'était la position, c'était le confin du truc. Donc on avait beaucoup de gens qui venaient d'autres pays, qui n'étaient pas du tout musulmans. Et on avait une confrontation. C'est aussi le siège du judaïsme et du christianisme, contrairement à Médine. Et donc on avait les trois religions qui étaient présente, mais surtout avec des gens qui sont capables de justifier. C'est pas des pratiquants, c'est des savants de ces religions-là. Et donc, Abu Hanifa va se retrouver confronté avec des gens qui argumentaient contre l'islam. Et donc, son école juridique va se distinguer avec le principe fondateur de l'islam, c'est-à-dire l'aql, c'est-à-dire le raisonnement. Parce que vous savez que l'islam, pour être musulman, il se base sur trois principes. Le premier, c'est ce qu'on appelle teklif. Le teklif, c'est-à-dire le fait d'être soumis à la jurisprudence musulmane. C'est le premier des choses, c'est l'âge. Donc, Dieu nous impose des règles qu'à partir d'un certain âge, donc à peu près à la puberté, 11, 12, 13 ans selon les personnes. La première des choses après l'âge, c'est la raison. Quelqu'un qui n'a pas sa raison, qui ne sait pas raisonner, qui ne peut pas comprendre les choses, l'islam ne peut pas lui être appliqué. Donc c'est pour ça que chaque fois que la personne perd sa raison pour une raison ou une autre, pour une maladie, consommation de drogue ou un truc, les règles de l'islam ne s'appliquent plus à lui. Donc la raison est une des bases pour que la jurisprudence s'applique. Donc Abu Hanifa va se baser sur ça, en disant tout dans l'islam doit être compris. On ne peut pas avoir un élément de l'islam qui ne peut pas être compris. Alors il va distinguer deux groupes. C'est-à-dire il dit tout doit être compris dans la capacité de l'être humain. Si la compréhension dépasse la capacité de l'être humain, bien sûr il ne peut pas le comprendre puisque ça dépasse sa capacité à lui. Et donc il va distinguer deux choses. Les choses qui ne peuvent pas être comprises, c'est-à-dire les choses qui ne peuvent pas être comprises, c'est des choses qui sont occultées à notre, par exemple, la signification, enfin pas la signification, mais l'étendue du pouvoir de Dieu, enfin des choses de cette catégorie-là, ou les raisons propres à Dieu, c'est-à-dire les raisons que Dieu, la visée de Dieu, ce qu'on appelle la visée de Dieu, ça l'homme ne peut pas la comprendre. Mais tout le reste, si on parle de salat, de prière, de trucs, doivent être comprises par le musulman, parce que comment peut-on appliquer quelque chose qu'on ne peut pas comprendre? Donc il faut forcément la comprendre pour pouvoir l'appliquer. Et alors il va avoir ce que les gens ont appelé l'école de la spéculation, c'est-à-dire que Abu Hanifa va s'attaquer à tous les sujets, qu'ils existent ou qu'ils n'existent pas. Son principe d'enseignement, c'est qu'il pose une question à ses élèves. Il les laisse discuter, alors ça peut durer une heure, deux heures, ça peut durer plusieurs jours, voire plusieurs mois. Et quand ils sont arrivés, ils ont terminé tous leurs argumentaires, lui, il vient et il écoute les argumentaires, il y répond. Donc il ne va pas privilégier un groupe par rapport à un autre groupe, il va privilégier la raison de la compréhension et la raison de l'application pour pouvoir justifier. Alors, évidemment, chaque fois vous aurez une école juridique, vous aurez la raison de laquelle a été fondée l'école juridique, c'est sa force et sa faiblesse. Parce que sur ça que tout le monde va les attaquer. On va disons, vous, les hanafites, vous cherchez des raisons là où il n'y en a pas. Par exemple, pour vous donner un exemple, Abu Hanifa a posé un jour la question, quelle serait quelle loi musulmane s'appliquerait si on pouvait faire des implantations d'organes. Il est évident qu'au 7e siècle, on ne faisait pas d'implantation d'organes. Et donc les gens, ils ont dit, mais ça sert à quoi? On ne peut pas transplanter un bras, un cœur, un foie, c'est stupide. Mais il a dit, c'est une supposition. Un jour, peut-être, ça arrivera. Donc, quelle serait déjà, réfléchissez, mettez-vous dans la condition pour dire, est-ce qu'on peut ou accepter? Et, par exemple, les fatwas qui ont été émises actuellement par tous les savants dans le monde se basent sur ce qui a été préparé par Abu Hanifa pour eux. Et ça, dans tous des domaines. Je vous ai parlé la dernière fois du miqat aérien, c'est-à-dire que quand vous arrivez à la Mecque par les voies désertes, alors que les points où vous devez vous changer, quitter vos habits publics pour les sont sur terre, il a dit, si vous arrivez par les airs, alors quel serait le miracle? Et donc il avait donné des réponses, et c'est sur ces par rapport à ces rapports. Donc vous avez ce qu'on appelle l'école spéculative, c'est-à-dire que Abu Hanifa avait cherché à répondre à plusieurs questions qui, à son époque, ne se posaient pas du tout. Et ça, en fait, il a mis en place un système qui ne cherche pas à répondre forcément à une question, mais à la poser. Un peu, je dirais, c'est le Descartes de la jurisprudence musulmane, c'est-à-dire il a donné une méthode comment raisonner pour trouver une réponse. Et donc, ça, c'est ça, et surtout, la force d'Abu Hanif à son époque, c'est que c'était le seul qui était capable de répondre aux chrétiens et aux juifs. Quand les chrétiens et les juifs attaquaient l'islam sur un point bien donné, c'est le seul qui était capable de le faire. Pourquoi? Parce que les autres, quand un chrétien ou un juif, comme un peu de nos jours, leur posait une question, quelle est la réponse qu'ils donnent? Ben, la réponse, elle est toujours tirée du Coran ou des paroles du prophète. Alors les autres ne sont pas convaincus parce qu'ils ne croient ni au Coran ni aux paroles du prophète. Donc pour eux, c'est pas un argumentaire. Ils disent, mais votre Coran et ce qu'a dit votre prophète, nous, on n'y croit pas. Alors qu'Abu Hanif, il était capable de, par la raison, de les convaincre. On a des textes énormes là-dessus, sur des conversations avec certaines personnes, où par la simple raison, il arrivait à les convaincre. Et on a des textes qui sont encore plus grands. Il disait quand Abu Hanif a parlé, il éblouissait les gens par la clairvoyance de ce qu'il dit. Il parle avec une clarté, il prend un sujet le plus complexe possible. Quand il en parle, tout le monde a l'impression de comprendre. Donc ça, c'est la force d'Abu Hanifa.
Comment vous écrivez son nom?
Abu Hanifa, c'est A-B-O-U, et après H-A-N-A-F-I. Et alors, la deuxième des choses aussi sur lesquelles Abu Hanifa va fonder son école, c'est, il faut comprendre qu'il n'est pas, enfin on dit qu'il n'est pas arabe d'origine, mais bon, ça n'a pas d'importance, mais il était arabophone, il maîtrisait l'arabe d'une manière extraordinaire. Lui va se contenter en disant, dans la compréhension des choses, il faut revenir à la compréhension du texte, du mot arabe. Alors que les autres, souvent, ils disent non. On va se référer à comment il était pratiqué. Pour vous donner un exemple. Quand on dit, par exemple, Wamsahu bilwusikum, par exemple, on prend le verset et sur les ablutions, il disait et essuyez vos têtes. Alors, les gens, ils disent la tête, c'est ça représente quelle quantité? Alors, la plupart des écoles juridiques, ils vont se dire, il faut essuyer toute la tête. Abu Hanifa dit non. La tête ne dit pas forcément la totalité. Une partie suffit. Alors, si vous essuyez le tiers, c'est largement suffisant. Vous n'avez pas besoin d'essuyer totalement. Vous n'avez pas besoin de la nécessité d'essuyer toute la tête. Lui dit, si vous faites une partie de la chose, vous l'avez déjà faite. C'est-à-dire, si vous mangez 2 cuillères de soupe, vous avez dîné. Vous n'avez pas besoin de vous remplir entièrement le ventre pour qu'on dise que vous avez dîné. Donc ça, c'était une des spécificités de cette école. Alors, on l'appelle l'école de la facilité. Alors souvent, les gens vont dire c'est l'école de la facilité à Abou Hanif. Parce que il va se dire, une partie, c'est déjà, c'est pas la totalité, mais c'est déjà, vous avez accompli ce qui est demandé. Si vous faites une partie, c'est l'exemple de, dit vous mangez deux cuillères de soupe, ben vous avez dîné. Vous n'avez pas besoin de manger la soupe, de la viande, du pain, le truc, vous remplir le ventre pour dire que vous avez dîné. Ça suffit de... Et alors, on, par exemple, souvent les gens voient... Bon, alors, des fois, ça vire à l'extrême. C'est l'incompréhension de ce qu'a dit Abou Hanif, ça vire à, des fois même à quelque chose de qui devient des fois ridicule. On voit par exemple, quand on est au pèlerinage, après le pèlerinage, la fin du pèlerinage, on doit se couper les cheveux. On voit des personnes qui prennent trois cheveux et ils les coupent. Ils disent, voilà, je me suis coupé les cheveux. Donc, vous voyez, mais ça, c'est la mauvaise compréhension. Mais c'est pas Abou Hanif qui dit, il suffit de couper trois cheveux pour qu'on vous en puisse dire. Mais c'est vrai que quelqu'un qui se coupe trois cheveux, on dit, c'est coupé les cheveux. On va pas dire... Parce que le pluriel en arabe, vient à partir de trois. Parce qu'en arabe, on a le singulier, la dualité, c'est-à-dire le 2, et à partir de 3, c'est pluriel. Donc on dit, il s'est coupé les cheveux, c'est à partir de 3 cheveux. Donc ça, de 3 cheveux jusqu'à tous les cheveux, quoi. Donc voilà. Donc ça, c'est un peu sa force. Alors, tous les savants vont se repérer à peu près sur tous les fondements de la religion, vont toujours être, bien sûr, le Coran, la sunna du prophète, dans ses paroles, ses gestes et ses approbations, et on va avoir des éléments qui vont se rajouter à ça. Alors, le premier des éléments, et c'est le fondateur de l'école hanafite, c'est l'analogie, qiyas. L'analogie, c'est-à-dire quand j'ai pas une réponse sur un sujet bien précis, le prophète ne l'a pas abordé, les compagnons d'avant ne le connaissaient pas, comment je réagis? Alors je vais le comparer à quelque chose d'existant qui est équivalent à lui. L'exemple, je sais que le vin est interdit. Alors, si le vin est interdit, Abou Hanif va se dire, mais pourquoi le vin est interdit? Il arrive à la conclusion, le vin est interdit parce qu'il fait perdre l'esprit. Alors il va dire, par analogie, tout ce qui fait perdre l'esprit est interdit dans l'islam. Donc la drogue est interdite, les stupéfiants, tous les stupéfiants sont interdits, et on peut dire aujourd'hui que les tranquillisants, certains tranquillisants, devrait être interdit s'il n'y a pas de nécessité de les consommer pour le bien. Mais en règle générale, on va voir dire que les tranquillisants sont interdits parce qu'elles font perdre l'esprit de l'être humain. Donc c'est ça ce qu'on appelle l'analogie. Et il va l'utiliser à tout voile. Alors là, c'est même on va lui reprocher que des fois, pourquoi il utilise l'analogie alors qu'il y a des textes concernant cette chose-là. On a des textes sur certains éléments et lui va utiliser l'analogie en les comparant à autre chose, mais lui va ouvrir une étendue de réflexion. Le but d'Abou Hanifa n'est pas d'arriver toujours à une seule réponse, mais d'arriver à une étendue de réponse qui est justifiée. Et donc le consensus, l'analogie va faire partie fondamentale de son raisonnement pour donner un avis. La deuxième des éléments sur lequel aussi les savants se basent, c'est l'ijmer. L'ijmer, c'est le consensus. C'est-à-dire que quand tous les savants sont tous d'accord sur quelque chose. Alors qu'il y ait un texte, qu'il n'y ait pas. En règle générale, on n'a pas besoin d'ijmer quand il y a un texte. L'ijmer se fait quand il n'y a pas un texte. Quand il n'y a pas un texte, c'est que tous les savants disent oui, ça c'est interdit ou c'est autorisé ou il faut le faire de telle manière ou telle manière. C'est une preuve parce qu'ils ont tous réfléchi, ils ont tous mûri ça dans leur tête et puis ils ont donné une réponse. Et les hanafites considèrent que le consensus va servir de base. Et ils ont aussi un élément qui est important aussi dans leur école, c'est l'istahsan. C'est-à-dire, c'est l'avis des gens érudits, des savants. Quand on a un savant, c'est-à-dire que Abou Hanif va considérer que l'avis de Malik, par exemple, alors que il n'a pas de relation avec l'école de Maliki de Malik ibn Anas, va considérer que son avis est important. On ne peut pas le négliger. Même s'il est contraire à mon avis, à moi, je dois tenir compte de l'avis des autres quand ils sont érudits. Quand les gens sont savants et reconnus dans la communauté comme étant savants, même s'ils viennent contredire mon avis, il faut que je réfléchisse moi. Pourquoi lui, il est contraire? Pourquoi il n'est pas arrivé au même raisonnement que moi? Et donc, vous voyez la portée de la réflexion qu'Abou Hanif a instaurée dans son école. Et ça va être l'école la plus riche. C'est pour ça que quand on parle d'Abou Hanif, on dit « l'imam l'arzam », le grand imam, le plus grand des imams. Pourquoi? Parce que toutes les autres écoles, ils vont plus ou moins prendre de son avis, vont adhérer à ses opinions, et plus on va s'éloigner dans le temps, plus on s'éloignera dans le temps, quand on arrivera au 3e, 4e, 5e siècle, l'école hanafite va devenir l'école la plus forte. Pourquoi? Parce qu'on va de nouveau affronter à chaque fois à des choses qu'on ne connaissait pas du tout. Et comment réagir à des événements qui nous arrivent et qu'on ne connaît pas du tout, sinon si on n'a pas la capacité de réfléchir par soi-même, si on n'a pas. Et comme Abou Hanifa a donné toute la méthodologie pour réfléchir par soi-même, donc on arrive à ça. On arrive à la réflexion de ça. Donc ça, c'est l'école d'Abou Hanifa. Alors, la deuxième grande école, c'est Malik, l'école malikite de Malik ibn Anas, qui représente à peu près la majorité de l'Afrique du Nord. Donc Malik est né en 95 et il est mort en 180 ou 179. Les savants ne sont pas tout à fait d'accord sur la date. Donc lui, il va vivre quasiment le deuxième siècle. Il va vivre 80 ans dans le deuxième siècle de l'Hégire. Alors, la spécificité de Malik, elle se résume en un mot, Médine. Il est né à Médine, il n'a jamais voulu quitter Médine et il est mort à Médine. Alors, pourquoi ça se résume à Médine? La réflexion de Malik, elle est toute simple. Elle est facile à comprendre, il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h. Lui, il dit, le prophète a fondé la Ummah, la nation, et tout l'islam à Médine. Les trois califes, qui sont une référence pour les musulmans, ont gouverné à Médine. Tous les compagnons ont vécu à Médine et sont morts à Médine. Nous, la troisième génération, donc puisqu'il est né 100 ans après le début de l'Hégire, donc c'est la troisième génération, nous sommes leurs descendants. C'est nos parents qui nous ont appris l'islam, et c'est leurs parents, ils les ont appris des compagnons directement. Donc il y a le temps de durée de la transmission est tellement court que ce que je fais moi parce que mon père me l'a appris ne peut pas être faux. Et donc il va considérer que tous les actes des gens de Médine sont la référence de l'islam par excellence. Et ça va conditionner toute son école, c'est-à-dire que même quand il va se retrouver devant un hadith, des fois, il a écrit un bouquin qui s'appelle Muwatta, donc le premier livre où on trouve des hadiths, il cite un hadith, par exemple, le hadith de jeûner les 6 jours après le ramadan. Il le cite dans son livre. Mais il dit qu'il ne faut pas l'appliquer. On ne l'applique pas. Alors on lui demande pourquoi, il dit les gens de Médine ne l'appliquent pas. Donc si c'est les gens de Médine ne l'appliquent pas, c'est suffisant pour lui pour que le hadith il est juste, mais il n'a pas le sens ni de préférence. Il a peut-être été juste un moment, il a été abandonné après. Et s'ils l'ont abandonné, c'est qu'ils ont une raison pour l'avoir abandonné, donc il va dire ne l'utilisons pas. Pour beaucoup d'autres choses, par exemple, c'est quand on dans sa pratique de tous les jours, dans les ablutions, un truc comme ça, quand on lui demande la justification, il dit il n'y a pas besoin de justification, c'est comme ça qu'on l'a appris. Donc, et quand il va privilégier un avis, on lui dit mais il y a d'autres avis, un tel a dit et un tel a dit, il dit mais vous ne tenez pas d'un tel, ce qu'un tel a dit ou un tel a dit, c'est les successeurs qui nous ont montré ça de cette manière là donc c'est cette école là alors on lui dit mais attendez, tous les compagnons ne sont pas morts à Médine, il y en a qui sont allés dans d'autres pays, qui sont installés. Il dit non, les principaux sont restés là. Pourquoi? Parce qu'ils ont obéi à un ordre du prophète qui a dit quand l'islam sera terminé, que les ouvertures, restez à Médine. Et donc lui, c'est là le fief de l'islam. Et donc il ne va pas tenir compte de tous les autres avis qui sont extérieurs à lui. Alors il a même des amis qui sont très proches de lui, qui souvent l'attaquent, enfin l'attaquent, l'interrogent sur des trucs, et il va expliquer la raison, le cheminement, pourquoi les gens le prophète est arrivé à Médine, il a instruit la communauté à Médine, il l'a transmis, ces gens-là, c'est eux qui ont formé leurs enfants, et ces enfants-là, nous sommes leurs descendants. Donc on est dans la bonne voie. Donc j'ai pas besoin de me justifier sur mes avis du moment que c'est comme ça qu'on nous les a appris. Donc ça c'est l'école de Melk Anus. Vous trouverez un article très 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 détaillé. Je crois que c'est le plus grand sur tous les sites, même plus grand que les livres qu'on achète actuellement, qui est sur le site Fierté musulmane. Donc il y a toute la vie de Melk et la jurisprudence malikite qui se trouve. Alors lui va se, donc si on dans l'ordre, comme je vous ai dit tout à l'heure, Abu Hanif a placé d'abord le Coran, après la Sunna et après l'analogie, Melk va avoir une autre manière de tirer sa jurisprudence. Donc ça va être toujours le Coran et la Sunna, parce que ça c'est pour tout le monde, et après c'est les actes et les jugements des compagnons. Donc c'est ça que ça référence. Si les compagnons ils ont dit ou ils ont fait, pour lui ça fait œuvre de loi. Pourquoi? Parce que c'est le prophète qui les a éduqués, ces gens là donc ils peuvent pas se tromper. Après les actes et les faits des compagnons, après, il va avoir le consensus, c'est-à-dire l'ijma', le consensus des savants. Mais alors Melk va le préciser. Le consensus des savants, pour lui, c'est le consensus des savants de Médine et pas des autres villes. Même les consensus des gens de la Mecque, il n'y tient pas compte. Pour lui, le consensus, quand il dit ijma'na, c'est-à-dire il y a un consensus autour d'un sujet, c'est les gens de Médine, c'est les trucs. Après, il va utiliser aussi l'analogie, le qiyas. Donc l'analogie, comme je vous l'ai expliqué, il va l'utiliser, mais toujours analogie avec le comportement des gens de Médine. C'est-à-dire qu'il ne va pas aller chercher des sujets qui n'ont rien à voir. Et quand on lui pose des fois un sujet sur une chose qui n'existe pas, il regarde les gens, il leur dit « Mais pourquoi vous posez un sujet sur ça ?» Il dit « Mais j'aimerais savoir. » Il dit « Vous n'avez pas besoin de savoir de ce qui n'existe pas. » Donc ne cassez pas la tête à essayer de chercher des choses qui n'existent pas, essayer de comprendre ce qui existe. C'est la première des choses. Et il a encore beaucoup, il a développé toute une théorie, ce qui fait que le malikisme aussi, qui est une des religions, une des écoles juridiques les plus développées, qui a permis de faire beaucoup d'avancer la réflexion sur l'islam. Par exemple, il a avancé certains avis, ce qu'on appelle par exemple l'istihsan, la préférence juridique, c'est-à-dire que quand j'ai un jugement sur deux choses, il faut que je choisisse le jugement le plus favorable à la personne qui m'interroge. Pas forcément le plus contraignant, le plus favorable à lui. D'accord? Par exemple, dans certains cas, le Coran nous laisse, par exemple, la possibilité entre jeûner 3 jours, nourrir 10 personnes ou faire autre chose. Généralement, les gens disent le Coran, il les a mis dans l'ordre, donc on essaie de faire le premier. Si on n'arrive pas, on passe au deuxième. Si on n'arrive pas, on passe au troisième. Mel qui dit non, vous choisissez le plus simple pour vous. Ils ne sont pas classés par 1, 2, 3. Ils sont au même niveau, vous les choisissez. Et bien sûr, il a sa justification. Il dit si Dieu les a placés côte à côte, c'est sans équivalent. Parce que pourquoi il les aurait placés dans un ordre préférentiel, donc il y a forcément, ils sont au même niveau. Donc il a sa justification. Tous les savants ont toujours une justification de ce qu'ils avancent. Et aussi, par exemple, l'istihbab, voilà, c'est-à-dire ce qu'on peut traduire par la présomption de continuité. Alors, c'est-à-dire que si quelque chose existe, Elle continue d'exister jusqu'à ce que j'ai la preuve qu'elle n'existe plus. C'est-à-dire, on va supposer qu'un mari part en voyage. Au bout d'un an, il ne revient pas. 2 ans, il ne revient pas. La femme va demander le divorce. Il dit non, vous êtes marié. Il est peut-être mort. Mais non, du moment qu'on n'a pas la certitude de sa mort, ce qui continue, c'est ça, ce qui est la réalité. L'autre ne sait que des suppositions. D'accord ? Donc la présomption de continuité. Toute chose qui a démarré et continue, sauf si on a la preuve qu'elle s'est arrêtée dans le temps. Si on n'a pas de preuve, c'est son existence propre. Bon, ça c'est l'histoire de l'homme qui part, c'est peut-être plus compliqué à comprendre. C'est concernant les ablutions, par exemple. Vous avez fait les ablutions, donc vous êtes en ablution tant que vous n'aurez pas la preuve évidente que vous les avez perdus. D'accord ? Donc, chaque, c'est-à-dire le doute, pour lui, n'existe pas, parce qu'il faut une preuve. Parce qu'on a une certitude, il faut une autre certitude pour lever la première certitude. Le doute ne peut pas lever la certitude. Les d'autres savants vont être d'avis contraire. Masalah al-mursala aussi, c'est-à-dire l'intérêt public. Il va prendre des décisions qui vont être contraires totalement, même au livre, au Coran, dans un sens d'intérêt public. Bien sûr, ils ne sont pas forcément des obligations. Un exemple de ça, par exemple, il dit que l'enfant de l'adultère, c'est-à-dire l'enfant dû à l'adultère, normalement, juridiquement, cet enfant-là, il n'a aucune responsabilité. Il ne peut pas être responsable de ce qu'ont fait ses parents. Donc lui, il est innocent, il doit être traité comme tout le monde. Mais Melk dit, par intérêt public, on ne devrait pas lui donner de grandes charges. Par exemple, il ne peut pas être juge. Pourquoi ? Parce qu'on pourrait douter de son jugement. Ou les gens pourraient mettre en doute, pas son intégrité, un truc comme ça, mais l'insulter. Et si on l'insulte lui, on va insulter en fait la justice en entier et les gens vont douter de la justice. Et donc, il va se dire, par intérêt public, si l'intérêt public est avéré, il faudrait peut-être ne pas lui donner une charge. Alors que l'islam, il dit la thèse du wazir, la thèse du orfa, aucun ne peut pas porter le fardeau d'un autre, donc ça innocente cet enfant de tout. Mais l'intérêt public pour lui est une des valeurs sur laquelle on va considérer, on va donner et il a beaucoup aussi, aussi un des éléments où lui il donne beaucoup d'importance, c'est l'orf, c'est la coutume. Alors quand Mel qui dit l'orf, la coutume, il pense toujours à la coutume des gens de Médine. La coutume des autres ne le regarde pas, c'est extérieur, c'est toujours les gens de Médine. Et c'est rentré beaucoup dans ce qui a permis au malikisme en fait de se répandre beaucoup dans l'Afrique du Nord. Pourquoi ? Parce que quand ils sont arrivés dans des pays berbères, tribaux, donc vous avez des traditions tribales arabiques, vous avez des traditions tribales de berbères, ce sont pas forcément les deux, mais quand on leur a dit « mais on tient compte des coutumes locales », évidemment les gens ils ont été plus tendance à aller vers le malikisme. Mais il faut bien dire, attention, j'insiste énormément dessus sur ça, la coutume ne tient compte, elle n'est tenue compte dans la jurisprudence que si elle ne contredit pas l'islam et si elle apporte un plus aux musulmans. Si elle lui enlève une partie de son droit, la coutume n'a aucune place. D'accord ? Par exemple, je cite toujours, dans certains pays encore, on dit oui, mais chez nous, la coutume, c'est pas donner l'héritage à la fille. C'est contraire à l'islam, la coutume n'a pas à intervenir là-dedans. La coutume est utilisée par Melk et par tous les juristes dans des appréciations et pas dans des jugements. L'appréciation, c'est quoi, par exemple ? C'est, je dis, par exemple, voilà, si mon fils guérit ou c'est un truc, j'habillerai 10 personnes, je vais habiller 10 personnes. Il est évident qu'ici, je ne vais pas leur donner des djellabas. Pourquoi ? Parce que habiller en France veut dire une robe pour une femme, un pantalon, une veste ou un pull pour un homme. Et donc, le mot habiller va avoir un sens en France qui va être différent dans Tunisie, qui va être différent en Arabie, qui va être différent au pôle Nord. Et donc, c'est quand je dis quelque chose, c'est la compréhension des gens, c'est-à-dire la coutume, la compréhension des gens qui va faire la référence. D'accord ? Ainsi pareil quand je dis je nourrirai telle personne. Ça doit avoir le sens de la nourriture, de je vais pas donner de la viande et les gens disent ah non mais oh, c'est du poisson, on avait compris. Et si c'est du poisson, la nourriture du pays, on va donner du poisson. Donc la coutume, c'est la compréhension générale. Quand on dit quelque chose, ben vous comprenez d'une certaine manière là. Et donc, par exemple, ici, en France, quand les gens disent on se repère, oui, mais on se réfère à l'orf, pour certains jugements X et Y, je ne veux pas citer des trucs, parce que c'est l'orf. C'est totalement faux. On ne peut pas se référer. Pourquoi ? Parce que la seule coutume qu'on doit tenir, même les musulmans ici en France, c'est la coutume de la France. C'est pas la coutume de l'Algérie, du Maroc, de la Tunisie ou du Sénégal ou truc. C'est la coutume française qui fait œuvre. Parce que quand je parle dans les gens, il y a des musulmans, des non-musulmans, c'est la compréhension de trucs. Parce que sinon, on va avoir des gens qui vont juger que par leur coutume du bled. Et on ne va plus avoir une compréhension totale. Donc l'ordre, c'est l'ordre du pays. C'est bien clair. Ça, c'est ce qui concerne le malikisme. Alors, le troisième grande école de la sunna, c'est Shafi'isme, c'est-à-dire Idris Shafi'i. Alors, Idris Shafi'i, est un élève de Melk, donc il est né à peu près en 150, il est mort en 204, 210, on ne sait pas trop bien. Donc il a été élève de Melk. Par contre, Abu Hanifa et Melk n'ont pas eu de relation, ils n'ont aucune relation les uns avec les autres, contrairement à ce que vous lirez dans certains ouvrages. Non. Melek n'est pas l'élève de Abu Hanifa, pas du tout, ils n'ont aucun rapport l'un avec l'autre. Ce sont deux écoles, même Melek a des mots très durs envers Chef, parce que comme il fait jouer la logique, il a des mots assez durs contre lui. Alors, Chef, il est de la parenté du prophète. Il n'est pas descendant du prophète, il se retrouve avec lui dans la même parenté au cinquième degré avant la naissance du prophète, donc dans l'arrière, grand-père du prophète. Donc il est de la famille, du moins de la tribu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, quelle est la spécificité de Shafi'i ? Shafi'i, c'est un. De nouveau, on parle que des gens extraordinaires, on ne parle pas des gens communs. C'est un type qui ne se destinait pas du tout à être un savant de l'islam. Il était surtout dans son jeune âge et tout un poète et quelqu'un qui maîtrisait la langue arabe comme personne ne l'a jamais maîtrisé avant lui. On disait toujours que pendant tout le temps où Chef a enseigné, on avait des gens qui venaient, et 50% de la classe, en fait, ils venaient apprendre l'arabe avec lui, et 50% venaient apprendre la jurisprudence. Mais on disait, mais ils assistaient au même cours, ils disaient oui. Parce que les uns étudiaient que l'arabe, les autres étudiaient la jurisprudence. Donc pour vous dire l'importance. Chef, on dit, il n'a jamais entendu ou lu quelque chose sans qu'il l'ait appris par cœur. Il suffisait qu'il lise une seule fois une chose, ça y est, il l'avait apprise par cœur. Et deuxième chose, il avait une maîtrise extraordinaire du concept du raisonnement qu'on retrouve chez Abu Hanifa. C'est à lui qu'on attribue Ilm al-Fiqh, c'est-à-dire de la jurisprudence, Usul al-Fiqh. C'est le premier qui a mis en règle, par écrit, comment à partir d'un texte on peut tirer des lois. Et je vous ai déjà cité l'exemple, par exemple, d'un hadith qu'on appelle le hadith du petit enfant avec l'oiseau. Donc, c'est le prophète, il y avait un enfant qui avait un petit oiseau dans une cage, et puis un jour, l'oiseau, il est mort. Et le prophète, il passe, et il le voit pleurer, il lui dit « Pourquoi tu pleures ?» Il dit « Mais l'oiseau est mort. » Donc, lui, il caresse la tête, les cheveux, et il lui dit « Remplace-le par un autre oiseau. » hadith, à l'odeur, je ne vois pas ce qu'on peut tirer. Chef a attiré 99 règles fondatrices de l'islam à partir de ce hadith. Et il était capable comme ça de tirer des règles d'éléments. Il a une capacité extraordinaire de déduction des choses. Et souvent, il ne tire quasiment tous ses principes que du Coran. Alors des fois, quand il dit voilà, le principe repose sur telle ayah, on ne comprend pas comment ça peut reposer, parce qu'on ne voit pas sur quelle base il se fonde pour ça. Mais il a, quand on lit son explication, ça devient clair comme le de la roche, que c'est ça, ce sens là, cette capacité de déduction, elle est importante. Alors Shafiri va, alors il va naître à Gaza, donc c'est un enfant de Gaza. Sa mère va l'amener à Médine, à la Mecque, pardon. De la Mecque, on va quand il va être adolescent, il va être envoyé au Yémen, où il va être, va avoir un moment un poste de juge. Il va avoir des problèmes politiques dans le truc, il va être emprisonné, on va le chasser du Yémen où il va partir. Et là, il va aller à Médine, donc il va être élève pendant 3 ou 4 ans de Melk, pour qui il avait une adoration extraordinaire, il était une complicité tous les deux extraordinaire. Et après, il va aller à Bagdad, et à la fin de sa vie, il va aller en Égypte. Et alors, quand il va arriver en Égypte, ça va être un choc pour lui. Parce que jusque-là, il a encore évolué dans un milieu majoritairement musulman, ou à 100% musulman, comme Médine, Mecque, la Mecque et le Yémen, ou avec une grande majorité de musulmans comme Bagdad et l'Irak. Et quand il va arriver en Égypte, il va se retrouver dans un où les musulmans sont minoritaires. Parce que 100 ans après le début du truc, les Égyptiens ne sont pas musulmans encore, ils sont encore coptes, ils ont encore de la religion catholique. Et surtout, ils ont une religion catholique très forte. C'est-à-dire qu'ils ont développé tout un dogme catholique qui est différent du dogme de Rome, où ils ont à voir des fondements de jurisprudence qui sont très fortes. Ils vont s'affronter avec Chef, et donc Chef va développer tout un argumentaire là-dessus. Et on dit toujours, il y a l'école Cheféite, il y a deux écoles. Il y a avant l'Égypte et après l'Égypte. Donc, on a un savant qui va, pour certains points, va changer d'avis. Il va avoir une jurisprudence avant, il va avoir une jurisprudence après. Alors, c'est pas spécifique à Chef, mais c'est tellement flagrant chez Chef, on fait toujours la référence à ça. On a toujours, chez tous les savants, des moments où ils ont deux avis différents. Les écoles Melka, par exemple, sur certains points, il y a des fois 4, 5, 6, 7 avis différents sur la même chose. Mais qui est tout un groupe, enfin, toute l'école y prit une teinte différente, il n'y a que ces chefs et qu'on le trouve. Donc j'ai dit, il est la base de ce qu'on appelle Usul al-Fiqh, c'est-à-dire, après quand on va rédiger les textes, comment on déduit les trucs, c'est sur chef et parce qu'il a écrit un livre qu'on appelle le Rissel, c'est à la lettre. En fait, il répond des questions de ses élèves. Il est traduit en français, d'ailleurs. Il est assez intéressant à lire. Il répond à ses élèves et il explique le pourquoi. Il explique, par exemple, une des questions qui lui est posée par son élève, il lui dit dans le Coran, en parlant de l'adultère et l'adultrice, frappez-les sans coup de fouet. Donc ça, c'est dans le Coran, donc c'est un jugement, des trucs. Alors il lui dit comment ça se fait qu'il y a la condamnation à la lapidation, puisque le Coran est clair là-dessus. Et il va y avoir un développement de l'argumentaire de Shafi'i qui va expliquer ça. Et c'est de cette manière-là qu'on comprend comment on doit déduire, comment on doit raisonner dans l'islam pour arriver à une déduction juridique à partir d'un texte. Sinon, les gens, ils disent non, la lapidation doit être interdite dans l'islam parce que le Coran est justement en opposition, il ne l'a jamais cité, donc Je ne comprends pas pourquoi. Et donc, chef va déduire, et c'est de cette manière-là qu'on arrive à comprendre l'école de chef. Ça, c'est ce qui concerne chef. Mais bon, il y a beaucoup à dire. Hein. Je résume un petit peu. Donc, il va avoir, lui, comme source de réflexion, donc le Coran et la Sunna, il va tenir compte de l'Ijmer, du consensus par respect pour Melk, et l'analogie aussi. Et il va tenir compte de ce qu'on appelle le hadith mutawatir, c'est-à-dire qu'on a des textes qu'on juge faibles parce que la chaîne de transmission n'est pas fiable, il manque une personne, on n'est pas sûr d'une personne. Mais quand le hadith est devenu célèbre et qu'il s'est transmis par tout le monde et qu'on a des sources différentes, lui il dit on doit tenir compte de ce hadith-là parce que tout le monde l'a fini par l'accepter, donc on doit. Alors d'autres savants ils disent non, il faut tenir compte de la chaîne de transmission du hadith. Ils peuvent le refuser, mais chef il tient compte beaucoup de ces hadiths-là. Et donc le quatrième imam de l'école sunnite, c'est Ahmed ibn Hanbal. Alors Ahmed ibn Hanbal, c'est il va lui subir une des grandes crises qu'a connu l'islam à son époque. Alors Ahmed ibn Hanbal, c'est 164 240 à peu près, 240. Donc c'est le dernier de la lignée des quatre grands savants. Il va à peu près vivre à son époque. Il n'aura pas connu Abu Hanifa ni Melk, il était un peu trop jeune, mais on dit qu'il était quand même élève de Melk. Il est possible qu'il soit élève de Melk. Historiquement, c'est possible puisqu'il est en 164 et que Melk il est mort en 180, donc il est possible qu'il était quand même son élève. Mais la plupart des gens s'assurent qu'il était dans sa jeunesse. Et tout. Alors, là aussi, on a une personne qui est un personnage extraordinaire. On dit qu'il connaissait à peu près 6 à 7 millions de hadiths par cœur avec toute leur chaîne de transmission. Donc avant l'âge de 18 ans. Donc chose encore plus extraordinaire, il n'a jamais voulu répondre à une question avant l'âge de 40 ans. Ni enseigner avant l'âge de 40 ans. Pourquoi ? Parce qu'on lui a dit, si Dieu, il a répondu, si Dieu n'a nommé le prophète sallallahu alayhi wa sallam prophète qu'à partir de 40 ans, c'est qu'il y a bien une raison, il faut un temps de réflexion à l'homme pour mûrir, pour pouvoir parler de religion. Donc il a respecté ce délai-là. Donc il a appris dès son jeune âge, mais il a quand même commencé à enseigner qu'à partir de 40 ans. Et il s'est complètement sacrifié aussi à l'enseignement, un tel point qu'il était d'une pauvreté extrême, il préférait acheter du papier que s'acheter des chaussures. Et quand on sait qu'il a fait le pèlerinage à la Mecque plus de 25 fois à pied, donc on peut imaginer. Et il y a beaucoup d'histoires concernant. Il ne voulait plus non plus être ni demander quelque chose à quelqu'un, ni être. Un jour, il était à la Mecque, et puis pendant 3 jours, il ne vient pas à la mosquée. Donc les gens, ils se disent, c'est pas possible qu'il ne vienne pas à la mosquée. Donc ils vont voir chez lui, dans la chambre où il était, dans la pièce où il était, et il était tout nu. On lui dit qu'est-ce qui s'est passé, il a dit mais j'ai lavé mon vêtement, donc il n'en avait qu'un, et on lui a volé. Alors, donc il ne pouvait pas sortir. Donc les gens ils avaient le truc, il lui a dit bon, on va t'acheter un truc, elle a dit non, je veux pas, je n'accepte pas. Alors il a dit mais il ne faut pas rester comme ça, il faut truc. Il a dit à la personne, il a dit bah si tu veux tu me donnes un travail, donne-moi un travail comme ça tu me rémunères pour mon travail et comme ça je mérite mon salaire. Donc il savait pas quoi lui dire, et puis c'est par manque de respect, un grand savant et trucs comme ça. Alors il lui a dit écris-moi un bouquin, écris-moi un livre. Je vais t'amener du papier et des trucs. Il lui a écrit un livre, et donc cette personne-là a conservé. Mais ce qui est intéressant, c'est que de cet argent-là, en fait, il est allé, il a acheté un vêtement recousu C'est une pièce de drap qui était rapetissée parce que c'était la moins chère. Enfin, un truc qui était dans le marché qui était le moins cher. La moitié de l'autre argent, il l'a dépensé pour acheter du papier, pour pouvoir écrire. Et l'autre moitié, il l'a donné en aumône. Donc, pour vous donner la capacité. Alors, lui va être emprisonné et va être martyrisé, le mot est exact, pour le problème, ce qu'on a appelé Khalq al-Qur'an, c'est-à-dire qu'un ça, il y a les Mu'tazila, qui est une école, un peu une secte, une école de pensée, ils se sont posé la question, est-ce que le Coran est créé ou il est incréé? Alors, c'est une question juridique qui aurait dû rester qu'au niveau des savants. Elle est tombée dans le domaine public et le gros des problèmes qui est arrivé, c'est que le Maïmoun, donc, qui était le calife de l'époque, l'a pris comme étant un dogme essentiel pour lui. Et donc, il disait, si les gens disent que le Coran n'est pas créé, qu'il est incréé, ben, ils sont pas musulmans, il faut les... Donc il a fait distribuer des lettres à tous les savants qui étaient connus où ils devaient écrire si le Coran est créé ou incréé. Et l'imam Ahmed ibn Hanbal a refusé de répondre à la question en disant, pour moi, le Coran, c'est les paroles de Dieu descendues dans la bouche de l'archange Gabriel sur notre prophète. Point à la ligne. Je ne veux pas savoir s'il est créé ou pas créé ou incréé. Il va... Donc il a été emprisonné, il a été torturé, il a subi tout. Et il va être marqué le reste de sa vie. Ça, c'était pendant sa jeunesse. Hein. Il va être marqué le reste de sa vie par ça. Et l'imam Ahmed ibn Hanbal va garder ça en tête. C'est-à-dire que regardez comment une chose qui est du domaine de l'incompréhensible pour l'être la plupart des musulmans de l'époque. Ça veut dire, est-ce que le Coran est créé ou il est incréé, qui devrait rester au niveau des savants, il pourrait discuter, justifier, mais... Si elle est prise comme un dogme essentiel, va amener la population à s'entretuer, à condamner, puisqu'il y a eu des milliers de savants qui ont été tués. C'est pas, je ne parle pas d'un petit événement, c'est vraiment, ça a marqué la conscience des musulmans jusqu'à nos jours. Donc c'est les Mu'tazila qui s'en fait, c'est pour ça que les Mu'tazila vont disparaître, parce qu'ils ont été la source d'une grande blessure. On a tué des centaines et des milliers de savants parce qu'ils ont refusé de dire que le Coran est créé, et donc ils vont mourir en martyr à cause de ça. Et donc Ahmed ibn Hanbal va rester toujours avec ça, c'est que le raisonnement d'un être humain ne doit jamais rentrer en compte dans la religion. Parce que c'est la vie des gens qu'on va prendre au détriment de la vie de Dieu. Vaut mieux dire je ne sais pas que de dire voilà, je pense que. Et donc ça va se retrouver dans sa méthodologie. C'est-à-dire qu'il va prendre le Coran et les hadiths, mais il va prendre tous les hadiths, même les plus faibles. Il va se dire. De toute façon, le problème des hadiths, c'est-à-dire qu'on ne conteste pas le contenu, on conteste la chaîne de transmission. On est bien d'accord. Le contenu, on ne sait pas, parce que pour être sûr d'un hadith, il faut l'avoir entendu soi-même de l'oreille du prophète. Donc, c'est la chaîne de transmission qui va être discutée. Il va se dire, même s'il n'y a qu'une probabilité de 1 million, de 1 sur 1 million ou 100 millions que ce hadith soit juste, je préfère ce hadith-là à mon avis à moi. À mon avis, pas à l'avis des autres, à mon avis à moi. Donc j'avance un hadith qui est faible plutôt que mon avis. Et donc il va se baser sur ça. Cet élément-là. Et la deuxième des grands trucs, c'est l'intérêt général. C'est-à-dire, il se dit, par rapport à ce qu'il a subi, quand l'intérêt général va être mis en cause, on doit combattre. On doit arriver à combattre tout ce qui est hérésie dans l'islam. On doit arriver à combattre tous ceux qui proposent des idées fausses, qui propagent il va combattre énormément ce qu'on appellera les philosophes, al-kalam. Donc il va s'opposer farouchement à eux en leur disant toutes vos spéculations ne vont emmener qu'à des hérésies et l'hérésie c'est condamnable profondément. Et il va s'opposer aussi évidemment à l'école d'Abu Hanifa parce que pour eux le raisonnement a une place énorme dans l'école, dans leur école. Et donc il va être marqué. Alors maintenant, on dit toujours, quand on parle du hanbalisme maintenant, le hanbal, c'est l'école la plus dure, la plus stricte, la plus... Non, c'est pas l'école la plus dure, la plus stricte. C'est toujours une mauvaise compréhension des écoles juridiques. On trouve des avis très différents aussi dans les écoles hanbalites. C'est une école qui se base sur vraiment sur les fondements de l'islam, et donc elle n'est pas plus stricte que Melk ou pas stricte. Des fois elle s'oppose, mais elle a toujours un argumentaire qu'elle présente derrière. Le wahhabisme, donc la tendance qui existe actuellement en Arabie Saoudite et qui se répand, est issue de l'école de Ahmed ibn Hanbal, mais évidemment pas avec l'ouverture d'esprit qu'avait Ahmed ibn Hanbal. Ils sont beaucoup plus rigoristes que lui. Donc ça, c'est les quatre grandes écoles qu'on retrouve dans le monde musulman. Alors, il y a une autre école, qui aussi fait partie d'Ahl Sunnah al-Jamaa, mais qui n'est pas, n'a plus une existence propre actuellement, sauf des petites crépuscules dans certains endroits. Il y a des savants encore qui se réclament de cette école-là. Mais elle a été intégrée en fait dans les autres écoles. Leurs avis les plus intéressants ont été intégrés dans l'école. Ce qu'on appelle Zahiriya. Zahiriya, c'est l'apparence qui est de Daoud Zahiri. Donc le fondateur de l'école, c'est Daoud Zahiri, qui a à peu près vécu à la même époque que les grands autres imams, puisque c'est à peu près en 80 à 140, 150 où il est mort à peu près. C'est 815-884. Alors Daoud Zahiri, c'est lui en fait, il va réagir à un phénomène qui a commencé à se propager dû au chiisme. Les chiites, ils ont une idée, ils avancent une idée que j'expliquerai un peu plus tard, c'est que il y a une partie visible et il y a une partie invisible des choses. C'est-à-dire que le Coran a une partie visible et il y a une partie invisible. Donc, ce qu'on appelle le zahr ou le batn, c'est-à-dire l'apparent et le caché. Et que l'apparent, ben, c'est ce qu'on voit tous, et bien le caché, il n'y a que des gens élus. Et pour eux, bon, les élus, c'est les descendants de Ali, qui connaissent la partie cachée qui doit être révélée par un imam, quoi, un grand imam de la famille du prophète. Et ils vont donc donner des interprétations à des textes et trucs qui vont à l'encontre de la compréhension simple. Pour vous donner un exemple, par exemple, dans le premier verset du Coran, on dit « Alif Lam Mim Zal et Kalkitab ou la Raïba Fif » Alif Lam Mim, ce livre ne contient aucune erreur. Ils disent le mot Kitab ici désigne Ali et pas le Coran. Donc c'est une extrapolation de certaines choses, trucs que Zahiri il a. Et alors il va se dire stop, faut revenir à ce que le texte dit. Si le texte il me dit assis-toi, je m'assis. S'il me dit lève-toi, je me lève. Alors, des fois, il va arriver, je donne toujours l'exemple, je vais le donner tout de suite après, on va arriver des fois à des choses caricaturales. De l'extérieur, elles sont caricaturales. Mais, dans le développement d'Oud Zahiri, c'est pas caricatural du tout, c'est un fondement. L'exemple que je vais vous donner, c'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, concernant le mariage. Il dit le consentement de la jeune fille, parce qu'il faut demander à la jeune fille son consentement pour le mariage, est nécessaire, et son silence, c'est-à-dire si elle se tait, si on lui dit est-ce que tu veux épouser un tel, et elle se tait, est une preuve qu'elle est consentante. D'accord? Donc le hadith il est clair. Donc elle doit dire non, mais si elle dit rien, elle est consentante. Alors Daoud Zahiri dit oui, le hadith il est comme ça. Alors on lui a posé la question, mais si la jeune fille dit oui, il dit, si elle dit oui, c'est qu'elle n'est pas d'accord. Donc pourquoi? Parce qu'elle doit se taire. Si elle est consentante, elle doit se taire. Alors évidemment, ça, de l'extérieur, ça la ridicule. Vous voyez ce que je veux dire? De l'extérieur, elle dit, ben, elle a dit oui, vous le dites non, elle a dit ça, elle a dit. Mais Daoud, elle a un développement très intéressant. Il dit, voilà, on se retrouve devant une jeune fille qui ne veut pas aller à l'encontre de ses parents. Elle ne veut pas dire non à ses parents. Donc il lui offre une porte de sortie. Elle dit oui, ce qui efface automatiquement son acceptation. C'est-à-dire, son oui veut dire un non. Parce qu'elle ne veut pas contredire ses parents qui veulent le faire marier à cette personne-là. Donc si elle leur dit non, ben, son père il ne va pas être content, ça va rentrer dans un conflit familial, ben, il lui offre une porte de sortie, il dit réponds par oui. Comme ça, ben, ça dit oui. Et on dit, ah, mais elle a dit, son oui correspond à un non. Et donc, on peut pas il ne peut pas l'épouser. Donc, si vous voulez, c'est une astuce qui permet de sortir de ce qui va être un conflit plus grand, c'est-à-dire de la fille avec ses parents. Donc, il va avoir tout un argumentaire développé autour de ces choses-là. Et quand on lui dit, par exemple, les ablutions, il dit, les ablutions, c'est ce qui est connu par les ablutions, c'est ce fait de se laver. Alors, frotter, pas frotter. Ça, c'est des choses qui n'ont rien à voir. Se laver, c'est la compréhension du terme se laver. Et ainsi de suite, il va avoir des avis juridiques sur toutes les choses. Alors, évidemment, on a beaucoup insisté sur cet élément-là, sur certaines choses qui vont contredire tous les autres savants, et on a tenu que des choses-là. Et tout le reste, il va être tout à fait d'accord que les ablutions sont obligatoires. Donc il va, mais dans certaines interprétations de texte, il va être littéraliste. Il dit la compréhension du texte telle qu'elle est, on ne doit pas extrapoler. On ne doit pas aller chercher midi à 14h. C'est la compréhension simple du texte juridique qui va être le fondement de la compréhension des choses. Donc, et on va avoir des grands savants qui vont être évidemment de l'école Zahirite, par exemple l'un des plus grands savants puisqu'il est assez contemporain puisqu'il a vécu en 450-460, donc il est du 10e siècle de christianisme et qui a le fondement de son école. Il était andalou et donc il a fondé toute une école juridique autour de Madhab Zahiri, de l'école Zahiriya, qui est Ibn Hazm, donc il est né en Andalousie. Lui va relancer l'idée qui a disparu, l'école juridique Zahiriya, en se réclamant de Zahiriya, parce qu'il sera retrouvé dans un milieu, l'Andalousie, où il y a des chrétiens, il y a des juifs et tout, et phénomène assez extraordinaire, ils ne sont pas en train de lutter les uns contre les autres, ils travaillent tous ensemble, puisque les juifs et les chrétiens et les musulmans vont traduire les textes grecs, latins, en arabe, en français, on va traduire les textes de l'arabe en latin, on va traduire les textes latins existants en arabe, il y a une émulsion, les gens travaillent dans des bibliothèques, il y avait des juifs, des chrétiens, des musulmans, et c'était une effervescence. Et souvent, Ibn Hazm va être confronté à des interprétations bizarroïdes du Coran, de certains textes et trucs. Et lui va dire, parce que les gens vont être confrontés aux deux autres grandes religions, et lui va dire revenons aux fondamentaux, revenons à la compréhension simple du texte. Faut pas aller chercher des interprétations parce que eux ils pensent comme ça que nous devons trouver dans nos textes quelque chose qui corrobore leurs idées à eux. Donc il va développer tout un argumentaire qui, Ibn Hazm, est un des fondamentaux actuels, parce que, surtout en Europe, un des fondamentaux actuels, parce que c'est ceux qui n'ont pas lu Ibn Hazm ne peuvent pas comprendre le christianisme, le judaïsme tel qu'il existe actuellement. Parce que le christianisme, le judaïsme du 10e siècle, c'est ce qui, à peu près, est en œuvre maintenant, pas celui du début de l'ère. Donc, c'est à ce moment-là que le christianisme et le judaïsme, ils vont apparaître, ils vont s'exprimer. Et donc, il va être un des grands savants qui va relancer l'école de Zahiriya, donc il va la relancer à peu près à ce moment-là, et ça va être, il va la moderniser, il va introduire tous les éléments, parce qu'au départ il était malikite, et puis il est beaucoup influencé par Chef et des trucs comme ça, il va la relancer, il va le donner, et on peut dire que maintenant, l'école de l'imam Ahmed ibn Hazm n'est pas une école indépendante, mais une école consensuelle. C'est-à-dire qu'il a pris tous les concepts de grandes écoles, il a introduit en disant, s'il faut utiliser l'esprit, on utilise l'esprit, s'il faut utiliser le consensus, on utilise le consensus, et il va relativiser beaucoup de choses. Il va aussi introduire le concept du consensus temporel. C'est-à-dire que le consensus des gens de Médine au 1er siècle n'est pas celui, on n'est pas obligatoirement obligé de se référer à lui parce qu'on est 5 siècles plus tard. Et donc il faudrait peut-être que si ce consensus doit être remis en cause, on peut le remettre en cause facilement. Pourquoi ? Parce qu'il date il y a 5 siècles. Il faudrait prendre l'avis des savants maintenant. S'ils sont tous d'accord avec celui-là, d'accord, on continue à l'appliquer. Mais s'ils s'y opposent, on s'oppose évidemment à ce consensus. Il a introduit cette idée-là dans la jurisprudence. Alors, il y a la dernière école. Alors, vraiment, je suis un peu embêté par les 200 parce que on ne sait pas où elle est. On ne sait pas si elle est sunnite ou si elle est chiite. Alors, elle est d'origine chiite et maintenant elle est considérée comme sunnite. Alors c'est l'Ibadiyya, c'est une école juridique qui n'existe quasiment qu'à Oman. Donc l'école ibadite, en fin de compte, c'est la plus vieille école qu'on a actuellement. C'est-à-dire c'est vraiment la toute dernière, parce qu'elle fait son fondateur, c'est Ibn Ibaz a commencé à propager son enseignement. Il est né en 22, hein, vous voyez, donc 7 ans après la mort du prophète. Donc et il est mort en 100 à peu près, donc il a vécu le premier siècle. Alors la caractéristique de cette école là c'est qu'en fait son le savant, donc on dit Ibn Ibad, souvent on dit Jaber ibn Zayd al-Zaydi, donc il y a deux termes qui sont souvent pas le nom ne se rapproche pas. Bon, bref, il a quasiment été l'élève particulier de Aïcha. Donc il a quasiment été son enseignement, on dit que c'est l'école qui contient le plus de hadiths de Aïcha. Il en a rapporté des milliers de Aïcha. Et donc il va se référer à Aïcha et à l'oncle du prophète, aux proches de la famille du prophète. C'est-à-dire il va se référer à Aïcha, aux femmes du prophète, à Ali, à Fatima, à Hassan et Hussein. Donc c'est pour ça qu'on se dit ils sont peut-être quand même des chiites, surtout qu'à un certain moment l'école, plus tard, quand le chiisme va apparaître et devenir une école juridique à part entière, les ibadites vont être du côté des chiites, ils vont combattre avec eux, ils vont sortir. Donc on les considère par certains côtés comme étant, mais maintenant consensuellement, actuellement, on dit que les ibadites, c'est-à-dire que les gens de Oman font partie de Ahl al-Sunnah al-Jama'a. On ne les considère pas comme des chiites. Alors, c'est vraiment une école très petite. Alors, ça concerne Oman, parce qu'il s'est allé s'installer. Et alors, après, on va la retrouver au Yémen, et on va la retrouver à Zanzibar, et dans 2-3 autres trucs sur la côte africaine. Alors on se dit, c'est bizarre. Ben non, c'est pas bizarre du tout. Les gens de Oman sont des commerçants. C'est les comptoirs de commerce qu'ils avaient. Là, les commerces qu'ils avaient, ils avaient donc un comptoir au Yémen, parce que bon, vous voyez où se trouve Oman, hein, c'est sur la côte est de l'Arabie. Et donc il s'arrêtait, bah, c'était la dernière bout de la côte du Yémen avant de passer à l'Afrique. Donc ils avaient un point de ravitaillement là-bas. Et puis après Zanzibar, c'était là où ils faisaient des échanges ou de produits locaux ou d'esclaves, un truc comme ça. Et puis deux, trois autres comptoirs qu'ils avaient ouverts un peu. Donc on trouve actuellement les Ibadites, c'est Zanzibar et Oman et quelques dizaines ou quelques centaines au Yémen. Mais c'est vraiment une école. Alors, par quoi elle se distingue, l'école Ibadite? Ah ben, par rien. En fait, ils n'ont pas une préférence juridique particulière. Ils tiennent compte de tout. Je dis, c'est une école qui a évolué complètement en autonome. Ils vont être influencés, mais par tous les courants que vont traverser. C'est-à-dire que chez eux, maintenant, on va trouver, par exemple, des éléments des kharijites, les idées des kharijites, par exemple. Le khariji, c'est... Maintenant, si vous dites un sunnite, le mot kharijite, pour lui, c'est le diable. Bah oui, j'expliquerai après. Mais c'est le diable. Donc, même si vous dites, mais c'est une bonne idée, quand même, il va se dire, mais c'est une idée kharijite, il faut la rejeter, dans sa globalité, parce qu'on rejette tout. L'idée du kharijite, par exemple, c'est concernant le gouvernement, c'est le plus apte qui doit gouverner, même si l'esclave, si c'est l'esclave. Même si c'est l'esclave borgne, une jambiste et tout, c'est le plus savant d'entre nous, le plus apte au gouvernement, c'est lui qu'on doit mettre à notre tête. Donc c'est une idée très 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 démocratique, je veux dire, c'est le plus apte à gouverner, c'est doit être le Alors, eux, ils l'ont intégré dans leur concept, ça fait partie des bases des ébadites, c'est-à-dire Afzali, c'est-à-dire le meilleur d'entre nous, c'est celui qui doit nous gouverner. Donc on doit décider, nous, dans ce groupe-là, qui est le meilleur d'entre nous, et on le met à notre... Quand il sera plus apte, qu'il y aura un meilleur que lui, donc on en nommera un autre. On nommera celui-là. Donc ça ne veut pas dire que parce qu'on a nommé quelqu'un, qu'on va attendre sa mort pour nommer un autre. C'est toujours l'excellence qui doit prédominer. Et ils ont une autre idée aussi que beaucoup devraient s'en inspirer, c'est de dire l'homme et la femme sont totalement égaux. Il n'y a pas de différence. Nous ne devons pas faire aucune différence dans rien entre la femme. Et donc ils disent, si la femme, elle est plus apte à gouverner que l'homme, ah ben c'est elle qui doit gouverner. Pourquoi? Parce que l'excellence ne concerne pas un sexe, mais elle concerne un savoir, et c'est le savoir qui doit. Et on va donc retrouver toute une affiliation chez eux de femmes savantes et de trucs. La référence par excellence, c'est que leur fondateur a pris toute sa religion de Aïcha. Donc vous voyez, donc si c'est une femme qui lui a appris, ils peuvent pas renier qu'une femme peut enseigner après. Donc on a tout un élément, la chose. Et aussi, transpercés ou transvasés, comme vous voulez, partout. Transpercés, je dis transpercés parce que des fois les idées leur sont rentrées de force, leur ont été imposées de force. Donc, mais disons, bon, ils ont été baignés dans toutes les opinions qui ont traversé tout l'islam. Ils vont les accepter plus ou moins des moments qui sont acceptables. Et alors ils vont mettre un fondement qui normalement maintenant devrait, qui est maintenant le fondement de l'islam. Tous les grands savants sont d'accord. Ce qu'on appelle l'estedlel, qui est une base de la jurisprudence, c'est-à-dire la justification. Si tu me dis que c'est ça l'islam, donne-moi la preuve. On n'accepte plus que quelqu'un dit il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut qu'il donne la preuve derrière. Alors la preuve peut être acceptée au truc, mais ils disent on doit donner la preuve de tout ce qu'on avance. Mais quelle que soit cette preuve-là. D'accord? Donc ils ont cet élément-là, il est quasiment propre à eux. Mais maintenant tous les savants disent... c'est-à-dire la justification, et on n'a pas besoin de dire qu'elle fait partie de la jurisprudence, elle est la jurisprudence, ce qu'on doit prouver pour ce qu'on dit. Et donc ça va être l'élément important de la jurisprudence الإباضية. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه تجدوه غفورا رحيما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.